Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonsoir à tous, très heureux de débuter cette nouvelle semaine de Soir Info, votre compagnie, vous en avez l'habitude, mais j'aime vous le rappeler, nous sommes ensemble jusqu'à minuit, sans aucune interruption, autour de la table ce soir. C'est une première pour Jean-Baptiste Giraud. Bonsoir cher ami, merci d'être présent, vous êtes directeur pédagogique de l'Institut Libre du Journalisme, merci de participer à cette émission avec nous. Georges Fenech est de la partie.
Bonsoir.
Bonsoir cher Georges, ancien magistrat instructeur, consultant CNews, comme chacun sait, Christian Proutot, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce
bonsoir,
plateau, fondateur du GIGN, bonsoir à vous, bonsoir. Philippe Guibert, ancien directeur du service d'information du gouvernement. Merci
bonsoir,
d'être là. Merci à Karim Abric, bien sûr, de la rédaction, d'être fidèle au poste. Et Thomas Bonnet, du service politique de CNews. Bonsoir, cher oui. Thomas. On a beaucoup d'actualités, évidemment, à évoquer ensemble. Bien évidemment, cet énorme rebondissement dans l'affaire de la disparition du petit Émile et ce crâne qui a été retrouvé ce week-end. On y reviendra longuement. On sera en direct avec un médecin légiste un petit peu plus tard dans la soirée. La légalisation du cannabis en Allemagne. Est-ce un pas franchi qui pourrait également, pourquoi pas, arriver en France. On en discutera, mais je voudrais qu'on parle un petit peu d'économie dans cette première thématique, pour ce premier thème, parce qu'on a une question évidemment à vous poser autour des différentes propositions récentes du gouvernement. Faut-il réduire l'assurance chômage? Trois pistes, vous le savez, ont été mises sur la table pour cette réforme de l'assurance chômage par l'exécutif, qui n'a pas encore tranché. Mais Gabriel Attal nous a déjà donné les axes qui paraissaient intéressants à explorer, une réforme de l'assurance chômage pour engranger, bien sûr, des économies. Que pensent les Français de cette mesure à venir? On voulait vous montrer ce sondage assez intéressant. 54% d'entre nous veulent réduire les indemnités chômage. Et parmi ces Français favorables, vous allez voir le détail. C'est intéressant également, peut-être Thomas Bonnet avec un premier commentaire. 25% préfèrent réduire la durée d'indemnité. 24% veulent s'attaquer, pourquoi pas, à la durée et au montant. Les deux en même temps, alors que 5% de ces 54% favorables, eux préfèrent s'intéresser au montant des allocations. Un peu plus d'un Français sur deux, donc Thomas, estime que les Français sans emploi sont trop accompagnés.
Oui, et c'est ce qui rend cette réforme à venir de l'assurance chômage acceptable aux yeux de l'opinion. Et ça, évidemment, Gabriel Attal l'a bien compris. C'est pour cette raison que ces annonces interviennent dans ce contexte où les indicateurs économiques sont dans le rouge vif. On voit donc un Français sur deux à peu près est favorable à cette réforme. Du côté de Matignon, ce que l'on dit, c'est que plus il y a de Français qui retrouveront le chemin du travail, plus il y aura de recettes pour l'État et donc des économies. Mais si on va dans le détail, les économies réalisées par cette réforme, on parle de dizaines, voire de centaines de millions d'euros. On n'est pas du tout à l'échelle du déficit, c'est une goutte d'eau, il faut bien que les Français le comprennent, c'est une goutte d'eau. Il y a des buts inavoués dans cette affaire, et je vais vous le dire, il y en a au moins trois. Mm-hmm. D'abord, ce que disait Matignon aussi, c'est que ça crée du débat, ça crée du clivage autour de l'action de Gabriel Attal, et ça, c'est important pour les communicants qui entourent le Premier ministre. Aussi, l'autre but caché, c'est de garder, enfin caché ou pas d'ailleurs, mais c'est de garder des bons indicateurs sur le chômage. On sait que c'est souvent ce qui est mis en avant dans le bilan du chef de l'État, le chômage qui baisse, il faut conserver absolument cet indicateur.
Deux et raisons puis, déjà très politiques.
Oui, et puis le troisième est encore plus politique, c'est de montrer que le gouvernement est encore en capacité d'agir, de réformer. On parle beaucoup de cette majorité relative. Voilà un axe sur lequel il pourrait y avoir des avancées concrètes, malgré les freins et les blocages qu'il y a au niveau du Parlement.
Jean-Baptiste Giraud, qui est également spécialiste économie, hein, je le précise, l'exécutif, déjà dans un premier temps, c'est vrai, et Thomas le dit, lance un peu des idées pour voir comment c'est accueilli par la population.
Enfin, c'est surtout très inquiétant de voir qu'on se préoccupe d'un sujet qui, comme vous venez de le dire, pourrait faire économiser à l'assurance chômage, qui, je le rappelle, n'est pas dans le budget de l'État, hein. Faire économiser quelques dizaines ou centaines de millions d'euros, là où on parle de dérapage budgétaire en dizaines de milliards et en fait 150 milliards. Donc on est sur une échelle de 0,1% de la somme d'argent à trouver. Le vrai problème,
donc c'est de la com.
Le dire, ben oui, on va passer beaucoup de temps à régler un problème qui n'a pas besoin d'être réglé, puisque en plus, le régime d'assurance chômage est excédentaire.
Mais 54% des Français pensent qu'il faut le réformer tout de même.
Alors,
c'est intéressant.
On va dire que pour une fois, sur le sondage a une vertu, c'est qu'il montre que les Français sont d'accord avec cette mesure. qui est en fait ce que l'on fait dans d'autres pays. Dans les autres pays européens, les indemnisations au chômage sont beaucoup moins généreuses. C'est pas l'Europe, mais en Angleterre, c'est à la fin de la semaine que le problème se règle. Alors, en tout cas, si vous êtes là, on n'est pas encore le 1er mai, mais si vous commencez le 1er avril, si vous commencez aujourd'hui votre poste, eh bien, votre employeur anglais, il peut vous dire à la fin de la semaine, je crois même, salut. Tout comme on peut d'ailleurs renoncer à un bail locatif à la semaine. C'est à la semaine. Donc l'emploi dans d'autres pays est réglé totalement différemment de chez nous. Chez nous, quand on a un emploi, et on n'a pas besoin des fonctionnaires pour ça, on l'a presque à vie, en tout cas on l'a pour le garder longtemps.
Philippe, je vais vous faire réagir, parce que je vous vois trépigner, mais encore un mot, Jean-Baptiste Giraud, parce que depuis une semaine, cette annonce de ce déficit abyssal dans lequel nous sommes plongés, le gouvernement, c'est vrai, essaie de faire des annonces pour combler les erreurs commises. On a l'impression quand même, malgré ce sondage, c'est quand même, je trouve, un peu dommage de faire peser ça sur ceux qui cherchent du travail. Il n'y avait pas d'autres leviers à activer ?
Bah si, il y a d'autres leviers, mais c'est les leviers impossibles à activer. Le levier principal, c'est celui évidemment des retraites. C'est là-dessus qu'il y a un sujet majeur, mais il se trouve aussi que ce sont les électeurs d'Emmanuel Macron. Ouais. Donc ça va être difficile d'aller dire à ceux qui vont voter
tout
pour
est politique
dans quelques semaines, ah ben il va falloir faire un effort. Non, c'est impossible. Non, c'est une équation impossible.
Il y a quand même Georges et Philippe, pardon Philippe.
Je suis certain que Philippe, on a déjà parlé, sera en désaccord avec moi. Moi, je considère que la vraie réforme, là où sont vraiment des capacités d'économie considérables, c'est la réforme de l'État. Voilà, c'est la réforme de l'État avec 6 millions de fonctionnaires.
Mais pour ça, il faut du courage, Jean.
Qui plus est, des services publics qui ne fonctionnent pas, on se demande pourquoi. On a, je crois, plus de 1 million de fonctionnaires que l'Allemagne, par exemple, voyez-vous. On a voulu rationaliser avec les collectivités territoriales. En réalité, ça crée de la nouvelle fonction publique territoriale. Donc, tant qu'on n'aura pas fait cette réforme de l'État... Voilà, et s'attaquer, moi je trouve aussi, franchement, à des chômeurs. D'ailleurs, il y a eu déjà deux précédentes réformes.
Oui. On pense surtout aux seniors qui, pour certains, ont travaillé pendant 30, 35 ans, se retrouvent dans une situation du jour au lendemain précaire. Oui. Et on les vise comme des gens qui travailleraient 6 mois et qui attendraient
de faire. Et il y a eu des rapports sur ces précédentes réformes qui ne démontrent pas qu'effectivement, il y a eu un retour à l'emploi plus incitatif. C'est vrai, vous regarderez ces rapports. Moi, et d'ailleurs, en parlant de clivage, on note qu'il y a un fort clivage déjà au sein même de la majorité.
Sur l'aile gauche,
on a vu le président de la commission des lois, M. Sacha Houlier, commencer à émettre de sévères critiques sur cette réforme. Voilà.
Philippe Guibert.
Non, mais je ne suis pas en désaccord, genre, sur le fait que la décentralisation est trop boursouflée et qu'elle n'a peut-être pas répondu à tous les espoirs pour un coût qui est important. Néanmoins, quand on regarde la structure des dépenses de la puissance publique, parce que c'est vrai que c'est pas des dépenses de l'État, mais ce sont des dépenses sociales et publiques, eh ben, les plus grosses dépenses, ce sont les dépenses sociales. Et en premier, la retraite, en second, l'assurance maladie, et l'assurance chômage, je n'arrive que très très loin derrière.
Très très loin derrière.
Très très loin derrière. Ça sera intéressant dans votre sondage de regarder un petit peu à l'intérieur, voir qui est pour et qui est contre. Moi, je mets vraiment une très grosse pièce pour parier que les inactifs sont beaucoup plus favorables à cette réforme que les actifs, par exemple.
Ah bon?
C'est-à-dire que ceux qui, les retraités, les personnes qui ne travaillent pas, sont moins concernés.
Les inactifs, je pensais que vous incluiez les chômeurs, pardon.
Par définition, non, les chômeurs, ils sont dans la population
active. Oui, pardon, c'est moi qui ai mal.
Au sens statistique, mais les personnes âgées et personnes qui ne travaillent pas ne seront en aucun cas concernées par cette réforme. Donc je ne serais pas surpris qu'elles soient très nombreuses à être favorables et qu'à l'inverse.
Donc tout est politique, rien n'est pragmatique et c'est en s'attaquant aux plus faibles que l'État espère retrouver le nord financier.
Mais à un moment donné, il faut dire la vérité aux Français, et ça c'est tout gouvernement confondu, pas simplement celui-ci, c'est qu'on se refuse à faire payer les personnes âgées, les retraités dans ce pays. Il y a un moment donné, il faut dire les choses quand même. Le plus gros des dépenses sociales bénéficie, retraite et assurance maladie, ce qui est normal d'ailleurs, aux personnes âgées.
Aux 70%.
Merci.
Je l'ai lu tout à l'heure, ce chiffre. Il m'a étonné. 70%.
Et donc, si à un moment donné, vous dites ce qui nous coûte plus cher en France par rapport à nos voisins européens avec lesquels nous sommes en concurrence et en concurrence sur les déficits publics, sur le paiement de la, sur les emprunts, sur la dette, bah, à un moment donné, il faut toucher aux dépenses sociales.
Oui, mais pour aller dans le sens de ce que disait Georges, peut-être qu'on peut s'attaquer à l'institutionnel avant de s'attaquer aux individus.
Oui, mais on fera des économies beaucoup moins importantes. Je prends juste un dernier exemple. Le gouvernement a décidé, au moment de la réforme des retraites, pour faire passer la pilule, si j'ose dire, d'indexer les pensions de retraite plus que l'inflation. Et ce qui a été refusé aux salariés, hein, les salariés, eux, n'y ont pas eu droit. Ça coûte 14 milliards d'euros cette année. Et donc, on peut se demander, peut-être que les petites retraites méritent l'indexation sur les prix, parce que c'est des petites retraites, mais pas toutes les retraites. Et peut-être qu'il ne fallait pas augmenter d'autant les pensions de retraite. C'est un coût faramineux. 14 milliards, je vous rappelle qu'en 2023, l'année dernière, le gouvernement a mené une réforme des retraites qui visait à économiser 14 ou 15 milliards à horizon de 20 ans. On les a claqués, si vous me permettez cette familiarité.
Alors, je rappelle qu'on est champion de la dette, hein, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. En 7 ans, la mandature du chef de l'État, Julien, 900 milliards d'euros de dette en plus.
Tous les rapports, Cour des comptes, tout ce que vous voulez, disent les pensions de retraite en France sont plus élevées qu'ailleurs.
Oui, enfin, les systèmes de retraite sont à l'équilibre pour la plupart d'entre eux, voire excédentaires pour les retraites privées.
3 ou 4 points déjà de dépenses publiques supplémentaires. C'est une réalité comptable. Alors, on peut décider, on peut dire que les retraités ayant cotisé, c'est un dû et qu'on ne doit pas y toucher. Mais nous ne racontons pas l'histoire. Tous les efforts portent sur les actifs depuis 20 ans ou 30 ans par tout gouvernement confondu.
Encore un ou deux mots.
Et les chômeurs, eux, sont le groupe social qui vote le moins.
Karim Abrik et Christian Proutot pour conclure.
Non, mais on a toujours un malaise quand on se dit qu'on va aller chercher des économies auprès des plus vulnérables. On se rappelle quand même que le chômage, les prestations de chômage, c'est quoi? C'est le filet quand vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas d'emploi, vous perdez votre emploi et vous cotisez quand même quand vous travaillez, vous cotisez. C'est pas quelque chose,
c'est pas un cadeau.
Cela étant dit, c'est vrai que selon les pays, ça peut être beaucoup plus généreux, d'autres moins généreux. Si on regarde dans d'autres pays d'Europe, si je regarde au Canada, en général, le maximum, c'est à 12 mois et ça diminue, en fait. En fait, c'est au maximum 12 mois. Et les catégories, parce que pour avoir accès, quand on touche à l'assurance chômage, aux prestations chômage, il y a trois grandes choses à regarder. C'est les critères d'éligibilité, donc combien d'heures vous avez travaillé au cours de l'année précédente, si on peut jouer sur ces paramètres. Ensuite, la durée des prestations, on peut jouer là-dessus. Et ensuite, le montant. Je ne pense pas qu'il faut aller chercher dans le montant, c'est déjà on n'est pas sur le chômage pour s'enrichir, c'est vraiment...
Mais d'ailleurs, la plupart des Français, vous voyez, optent sur la durée d'indemnisation.
C'est ça, parce qu'il n'y a personne qui s'enrichit sur le chômage. Il faut quand même se mettre tout ça en tête. Et peut-être plus largement, il faut peut-être réfléchir aussi pourquoi il y a tant de gens qui vont perdre leur emploi. Quand on pense à l'âgisme aussi, quand on regarde le taux d'emploi des 55-64 ans, il y a pratiquement, dans certains cas, je regardais des chiffres de l'INSEE, on disait 60% sont à l'emploi, mais ça fait presque, c'est 40%, et même dans certaines tranches d'âge, c'est 1 sur 2. Alors, il y a cet aspect aussi, c'est difficile de plus en plus pour les personnes qui avancent, des seniors qui ont pourtant l'expérience, qui devraient être à l'emploi, c'est difficile pour eux.
On peut parler au-delà de 50 ans, c'est de plus en plus compliqué de trouver un emploi lorsqu'on a perdu le sien.
On peut penser aux femmes aussi, des fois, qui doivent arrêter pour les maternités ou quoi que ce soit. Donc, il faut penser plus largement là-dessus et se dire aussi que c'est difficile parfois de faire certaines réformes. Parce que peu importe ce qu'on va toucher...
On n'ose pas annoncer des taxes, des mesures de restriction, des hausses d'impôts, parce que le fantôme des gilets jaunes plane et que c'est plus facile de s'attaquer aux faibles.
Mais si on
l'a bien compris.
Toucher, par exemple, aux emplois dans la fonction publique, c'est aussi des emplois. Donc là, vous allez mettre des gens au chômage, peut-être.
On a 56% de dépenses de fonctionnement sur notre PIB.
Fonctionnement, George.
Sur le PIB.
Non, mais il faudrait peut-être déjà qu'on pense. Et Christian Proutot, qui n'a pas donné son avis sur la question avant de conclure. Faudrait peut-être déjà, avant de culpabiliser les gens qui sont au chômage, de mettre la pression sur des seniors qui parfois ont des accidents de vie et en effet un emploi, ça tombe pas du ciel. Faudrait peut-être songer à créer de la croissance déjà et se remettre en cause au sein même de l'exécutif.
Oui, effectivement, je crois que pour qu'un pays soit riche et qu'il puisse mettre en place les mesures sociales qu'il a prévues, eh bien, il faut qu'il y ait cette croissance qui n'est pas venue. Et dire qu'à un moment, on tape sur le chômage, moi, ça me paraît pas très sain parce que, et on l'a tous dit autour de la table, il n'y a pas une incidence si importante que, effectivement, ça mérite d'y porter autant d'attention. Et c'est un peu malsain dans l'esprit. Et s'agissant du train de vie de l'État. Des fonctionnaires, je voudrais rappeler qu'au moins pour la fonction publique d'État régalienne, que ce soit la santé, la police,
absolument.
On a suffisamment payé avec les RGPP pour qu'on ne refasse pas la même chose. Donc, il faudrait peut-être se pencher
sur
la
fonction électorale.
Tiens, bon, pour conclure, je voudrais qu'on entende. On va conclure sur ce sujet parce que je me disais, on a beaucoup de thèmes à évoquer ensemble. Écoutez Pascal de Lima, l'économiste, qui nous parlait des pistes donc envisagées par le gouvernement autour de ces réductions de l'assurance chômage.
C'est sûr qu'on va sur des pistes multidimensionnelles qui combinent à la fois la durée d'indemnisation, les délais de carence, les bonus-malus aussi. On est aujourd'hui sur des pistes multidimensionnelles. Faut-il préciser quand même que l'assurance chômage aujourd'hui est excédentaire, hein, et que le problème de l'assurance chômage n'est pas tant finalement les déficits comme d'autres secteurs de l'économie publique, mais la dette en réalité.
Autre thème avant d'évoquer bien sûr cette information majeure autour de la disparition du petit Émile. Connaissez-vous Mao Drama ?
Maintenant, oui.
Depuis quelques heures, oui. Humoriste et chroniqueuse régulière sur la radio France Inter, elle a tenu des propos qui ont suscité la polémique ces derniers jours. C'était lors d'un débat organisé par Mediapart et diffusé en ligne. Elle a émis une hypothèse. Prendre les armes si Marine Le Pen arrivait au pouvoir en 2027. Explication Corentin Alonso.
Le 16 mars dernier, lors du Mediapart Festival, l'humoriste de 30 ans participait à un débat sur le thème « Comment lutter contre l'extrême droite ?»
Est-ce que nous aussi on a des factions armées ? On se prépare à leur répondre ? Est-ce que l'on doit être radicaux jusqu'à ce point-là ? Est-ce qu'on doit faire la révolution ? Je ne pose que des questions, mais je trouve qu'elles se posent vraiment.
Avant de viser directement le Rassemblement National et Marine Le Pen, en imaginant une victoire du RN à l'élection présidentielle de 2027.
S'il y a l'accession au pouvoir de Marine Le Pen, on ne pourra pas juste continuer à mettre des affiches en disant « patriarcat caca ». Je ne sais pas me battre, je ne suis pas courageuse à ce point-là, mais si certains le sont, je ne peux que les encourager.
Une déclaration contre le Rassemblement National qui a fait réagir la députée du Var, Laure Lavalette, ce samedi sur X.
Devant ces propos d'une extrême gravité et diffusés par Mediapart, je saisis le procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale.
L'incitation publique à la violence est un délit passible d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Et avant d'en parler en plateau, écoutez la députée Rassemblement National, Laure Lavalette, qui réagissait aujourd'hui sur CNews.
Le message qu'on veut faire passer, c'est qu'on ne laissera plus rien passer, en fait. Et que nous saisirons l'ARCOM, le procureur de la République, à chaque fois que des propos insensés, d'une extrême gravité, comme ceux qui ont été tenus au colloque de Mediapart, seront tenus. On ne peut pas inciter publiquement à la violence et à la haine. Cette pseudo-humoriste appelle carrément à la sédition. C'est quand même fou. Et surtout, vous le disiez, ça s'est passé dans l'indifférence générale. Imaginez un seul instant que vous, ce matin, sur votre plateau, un de vos chroniqueurs est appelé comme ça à prendre les armes contre un parti politique ou une personnalité politique. Mais ce serait même le quart de la moitié de ce qu'a dit Mao Drama. Je peux vous assurer que ça aurait fait une polémique nationale.
Philippe Guibert, imaginez, comme le rappelle Laure Lavalette, un instant qu'un humoriste appelle à prendre les armes. Si Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir, ce serait une déflagration, tout simplement, dans le monde politique, médiatique. Donc, et là, c'est le RN, alors il n'y a pas de problème.
Oui, alors deux remarques. D'abord, ne donnons pas plus d'importance à cet humoriste qu'elle
n'a. On ne donne pas plus d'importance, on va en parler cinq minutes.
Parce qu'elle était peu connue avant et elle est plus maintenant, mais voilà, et qu'elle représente qu'elle-même quand même.
Elle est dans un événement organisé par Mediapart, qui est diffusé en ligne. Elle est présente très régulièrement sur une grande radio nationale qui est France Inter. Mais on ne parle pas de quelqu'un qui a fait du bruit dans la rue et qui s'est. Il y a un retentissement, il y a des répercussions.
Vous avez entendu d'autres personnes appeler à prendre les armes en cas de victoire du RN ? Elle est toute seule à avoir dit ça.
Non, j'ai écouté la conférence, elle n'est pas. Donc, enfin, à prendre les armes, c'est la seule, mais le discours ambiant, il est quand même.
Bon, donc elle représente avant tout qu'elle-même, et puis peut-être un groupuscule de gens éventuellement. Deuxième remarque.
Mais pardon Philippe. Je sais que c'est pénible de se faire interrompre et je vous demande pardon. Je sais que c'est pénible, mais prenons exactement les mêmes arguments que vous venez de tenir dans le sens inverse. Donc si Jean-Luc Mélenchon arrivait au pouvoir, s'il y a un seul individu qui dit moi je veux prendre les armes, vous diriez oh mais il n'est que le reflet de lui-même. Quand bien même il est relayé par tel média et en live sur tel média, c'est pas grave, il n'est que le relais de lui-même.
Merci. Évidemment que je dirais la même chose. D'accord. Quel est le problème ? Ma deuxième remarque, merci, c'est de dire que cette personne, et elle reflète peut-être un certain milieu, est au degré, c'est pas le degré zéro de la réflexion politique, mais c'est le degré moins 10 ou moins 20. C'est-à-dire de ne pas se rendre compte que dire des choses comme ça, qui n'ont pas de sens, à partir du moment où on est dans une démocratie, et à partir du moment où une personne, quelle qu'elle soit, est élue légalement, que ça n'a pas de sens, que c'est... Et qu'en fait, c'est victimiser le Rassemblement national qui saute sur l'occasion pour aller en faire tout un truc pour montrer combien ils sont persécutés. Je trouve que c'est un degré de bêtise politique et idéologique qui est, oui, qui est plus que crasse. Qui est plus que crasse. Puis la troisième remarque, c'est le désastre dans une partie de la gauche de la réflexion sur comment on combat et comment on lutte contre le Rassemblement national. C'est-à-dire que là, quand on en est à dire qu'il faut peut-être prendre les armes, ou que de toute façon, ce qui est beaucoup plus répandu, parce que je répète que cette personne est quand même très isolée, mais qu'il ne faut jamais discuter avec un représentant du Rassemblement national ou quelqu'un qui est proche de ses idées. Ce sont des gens qui, depuis 20 ans ou 10 ans, n'ont pas réfléchi une seconde à la façon dont ils allaient pouvoir contrer la montée du lepénisme dont ils font leur adversaire matin, midi et soir. Et ça, je trouve ça dramatique. Pour moi, c'est beaucoup plus significatif que ça, que son propos en tant que tel, qui est évidemment tout à fait scandaleux, mais que je trouve pas très représentatif. Enfin, elle est la seule à dire ça, je le maintiens.
Qui est la cible, selon vous, Jean-Baptiste Giraud? Les membres du RN, ses électeurs? Qu'est-ce qu'elle veut? Une guerre civile? Comment vous interprétez? Ça vous a choqué, ces propos?
Alors, déjà en fait, non. Pas du tout, parce que moi, ça me rappelle... je suis journaliste aussi, à la base. Ça me rappelle lorsque je travaillais dans une autre grande maison. À l'élection présidentielle de 2002, la chasse à l'homme, systématique, partout, parce que Jean-Marie Le Pen arrivait au second tour de l'élection présidentielle. Et les propos qui nous choquent ici ce soir, isolés, vous dites qu'ils sont totalement isolés, et c'est d'ailleurs sans doute parfaitement vrai. Ils n'étaient pas isolés, ils étaient non seulement majoritaires, mais ils étaient presque les seuls propos autorisés dans les médias.
Ah non, alors, il n'y a pas, pas de les armes en 2002. Excusez-moi, j'ai participé très près à cette campagne électorale et il n'y avait personne.
L'entre-deux-tours a été quand même assez mémorable.
On chassait les électeurs du. Je rappelle que non. De Jean-Marie Le Pen.
Non, il y a eu une très. Non, je rappelle. C'est pas exact.
On tenait les mêmes propos.
Je rappelle que non, c'est pas exact. Je suis désolé. Il y a eu une très forte mobilisation parce que c'était un choc pour beaucoup de gens que Jean-Marie Le Pen antisémite.
Oui, et Jean-Marie Le Pen n'est pas Marine Le Pen. Hein. On va rappeler également qu'entre-temps, il y a eu une phase de normalisation.
De toutes les extrêmes droites françaises, soit au deuxième tour de la présidentielle, ça a été un choc pour beaucoup de gens, et pour moi comme pour les autres.
À l'époque,
mais à l'époque, totalement... on ne parlait pas de prendre les armes.
Il était totalement désinhibé à l'idée de faire la peau aux électeurs du Rassemblement national.
Tout le monde savait qu'il n'allait pas gagner, en plus.
Je rappelle simplement au passage...
Je n'aime pas qu'on vous coupe, mais...
Je rappelle au passage que dans les années 70-80, l'ultra-gauche radicale maoïste avait pris les armes. Hein, ça s'appelait Action Directe. Ils avaient ciblé des grands patrons, comme le patron Besse,
Georges Besse, le
lieutenant général Audran.
Qui a été assassiné.
Voilà, donc il y avait une frange des maoïstes qui avaient pris l'action violente et terroriste.
Et d'entendre ça aujourd'hui, Georges, ça dit quoi de la situation politique du pays?
Ça dit que nous sommes dans une radicalisation du débat politique. Vous avez l'ultra-gauche, véritablement, qui se pose en rempart de ce qu'il considère être l'extrême droite. Ce qu'il ne voit pas, c'est que cette extrême droite n'a plus d'extrême, en réalité, puisqu'ils ont 90 élus, je crois, à l'Assemblée nationale, et rappelons-le, 42% aux élections présidentielles. Donc on ne peut pas lancer des appels comme ça impunément, et je crois que ça peut effectivement avoir une sanction judiciaire.
Écoutez, Aurore Berger, la ministre qui fait partie des seules politiques quasiment à avoir dit son indignation par rapport aux propos de cet humoriste.
Dans un débat public, quand on est un homme ou une femme qui a accès à la parole publique, on n'incite ni à la violence ni à la haine. Point barre, quelles que soient les personnes mises en cause. Et je pense que c'est en étant très clair sur ces principes républicains, justement, qu'on fait peut-être reculer l'extrême droite. Je pense qu'elle a plutôt l'effet inverse, cette dame. Et donc, c'est pas comme ça, à mon avis, qu'on lutte contre l'extrême droite en disant qu'il faut plus de violence dans la société. Donc, moi, il y a un propos très clair. On n'appelle jamais ni à la haine ni à la violence, quelles que soient les personnes qui seraient mises en cause. Ce que je souhaite, c'est que, de manière très claire, l'ensemble des partis politiques, évidemment, condamnent tout appel à la contestation, évidemment, de nos principes démocratiques, à la violence ou à la haine, quelles que soient les personnes qui soient visées.
qui condamne, à part Aurore Berger, Karim Abrik. Ouais. C'est assez honteux tout de même de voir que
exact.
Il n'y a quasiment aucune réaction politique. Alors qu'encore une fois, dans le sens inverse,
oui.
Ça aurait été un tollé. Et si quelqu'un avait dit ça sur cette antenne, la patrouille interviendrait, et à juste titre.
Oui, mais
et à juste titre.
C'est... On oublie que c'est un Mediapart. Hein. J'aimerais quand même.
Oui, mais c'est un événement qui est retransmis en live. C'est pas uniquement dans les colonnes du site de Mediapart.
Alors, hein. Mediapart, c'est... oui, mais peut-être. Mais au départ, c'est à Mediapart qu'on peut se permettre tout de construire. D'avoir ce genre de construction et qui apparemment n'a pas créé un tollé au moment où ça a été dit au sein de Mediapart.
Non.
Donc on sait ce que Mediapart représente et il est dans la continuité.
Carrément.
Bon, on fait allusion à Mediapart. Est-ce que finalement il décide de se dissocier de ces propos qui ont été tenus sur le site dans ce contexte d'activité? Je dis ça parce qu'on sait que Mediapart aime bien faire. Toutes sortes de prêches un peu en se disant finalement un peu au sommet, si vous voulez, de la tolérance et de la justice sociale. Donc, est-ce qu'on se dissocie de parole ou finalement c'est une incitation claire à la violence? Pour moi, c'est assez clair. On n'est pas simplement dans l'expression de sentiments ou de la situation politique. Et d'ailleurs, on n'est pas dans un spectacle au sens où on est dans une fiction, on décide d'interpréter un personnage ou on est dans l'imagination, on crée un scénario. Non, on est dans un cadre d'un débat. Donc, on ne peut pas se cacher sous l'œil ou sous le fait d'être un humoriste ou une humoriste ou quelque chose comme ça.
D'ailleurs, on est dans un
débat. Et imaginez, effectivement, parce que j'ai regardé quand même ses propos, on va les regarder quand même, il y a nommément, elle dit « si il y a l'accession au pouvoir de Marine Le Pen ». Donc déjà, il y a un nom. Imaginez si on avait dit, je sais pas moi, n'importe quel autre nom. Hein, on peut penser à des féministes. Imaginez si on met le nom d'une féministe, par exemple, ou on met le nom de n'importe quel autre politique. Et donc, nommément, il y a quelqu'un qui est ciblé, on met littéralement une cible, et ensuite, je ne sais pas me battre, je ne suis pas courageuse à ce point, mais si certains le sont, je ne peux que les encourager. Donc, on parle vraiment
c'est
ici...
C'est un appel à la violence.
Un appel à la violence. Donc, cette tolérance à géométrie variable, hein, c'est comme au nom de certains idéaux...
Un délit.
Ben, on autoriserait finalement la violence. Et à ce moment-là, c'est quoi? Ça veut dire qu'on applaudit les tentatives de sédition. On applaudit les tentatives, par exemple, quand il y a des émeutiers ou des black blocs qui décident de brûler des véhicules, qui décident de saccager tout. Au nom de la juste cause, on va le tolérer, on va l'accepter, on va même l'encourager et on va même cibler quelqu'un et peut-être mettre ça plus largement aussi dans ce contexte où les élus reçoivent de plus en plus de menaces aujourd'hui. Mmh. On le sait qu'il y a ce contexte de violence. Donc oui, il y a une radicalisation non seulement du débat public, mais je pense que ça va au-delà.
En tout cas, jusqu'à il y a quelques heures, personne ne connaissait cette personne. Eh bien, elle a réussi son
coup. C'est une humoriste, hein?
C'est une humoriste, dit-on.
Mais elle a dit avec humour ou sans humour?
Non, elle l'a dit sans humour.
Au premier degré.
22h55, chers amis, entrons dans cette thématique autour de la disparition d'Émile. Vous le savez, si vous nous regardez, évidemment, tous les médias en ont parlé ce week-end. Ouais. Des ossements appartenant au petit garçon ont été découverts samedi à proximité de ce village du Auvernais. Le garçonnet de 2 ans et demi avait disparu le 8 juillet 2023. Un crâne donc identifié comme celui d'Émile a été retrouvé par une randonneuse. Aujourd'hui, un important dispositif de gendarmerie et d'enquête a été de nouveau déployé. Tout le village du Vernet est à nouveau bouclé. Une centaine de gendarmes quadrillent la zone. Adrien Spiteri est sur place pour CNews. Bonsoir cher Adrien. Ce village est donc toujours bouclé ce soir. Les recherches sont terminées pour aujourd'hui. Elles reprendront demain. Que peut-on retenir de cette journée écoulée et de ce jour 1, finalement, d'une nouvelle enquête qui commence ?
Ce qu'on peut vous dire, Julien, c'est qu'il y avait 100 gendarmes environ qui étaient mobilisés aujourd'hui, dont notamment deux équipes cynophiles. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des équipes accompagnées de chiens spécialisés dans la recherche de corps. Il y avait aussi des anthropologues, voilà pour les équipes au sol. Dans les airs, il y avait notamment 3 drones pour essayer d'aider les équipes sur le terrain, parce que la zone de recherche ici, elle est extrêmement vaste. Il y a des forêts, énormément de montagnes également, mais aucune information concernant concernant d'éventuelles trouvailles n'a filtré aujourd'hui du côté de la gendarmerie. Enfin, ce que l'on sait, c'est qu'en parallèle de ces recherches, des autopsies sont actuellement en cours. Vous l'avez dit, depuis la trouvaille de ces ossements du petit Émile, trouvaille réalisée donc par une promeneuse juste derrière moi sur cette route qui mène au Vernet. Et les résultats de cette autopsie pourraient avoir une importance capitale dans cette affaire, car ces résultats, ils pourraient permettre de faire la lumière, notamment de connaître les circonstances de la mort du petit Émile, à la fois les causes, mais aussi la date de son décès. Mais pour avoir ces résultats, il faudra attendre plusieurs heures, voire même encore plusieurs jours. En tout cas, ce qui est sûr, Julien, c'est qu'ici, plusieurs questions subsistent encore, et notamment celle-ci. Comment des ossements ont-ils pu être retrouvés sur une zone qui avait pourtant déjà été fouillée par les enquêteurs? Alors, il y a évidemment plusieurs suppositions. Est-ce un humain qui est venu déplacer ces ossements il y a quelques semaines? Pour le moment, aucune réponse n'a été apportée et toutes les questions restent en suspens.
Pour CNews, sur place dans ce village du Haut-Vernay. Merci beaucoup, Adrien. Un mot, Georges, avant le journal, et puis on sera beaucoup plus long, évidemment, dans un instant. On aura un médecin légiste qui sera en direct avec nous. Mais c'est vrai que c'est la question que tout le monde se pose depuis 24 heures.
Oui.
Comment a-t-on pu passer à côté de ce crâne, tant les recherches, les différentes battues ont ratissé très largement les environs du village du Haut-Vernay pendant des semaines et des semaines?
Oui. Bon, il y a des hypothèses qui sont émises, hein, notamment le fait...
Un manque de coordination, peut-être, dans les recherches, non?
Possible qu'effectivement, ça leur a échappé, ça peut arriver. L'hypothèse est quand même infinitésimale, parce qu'il y avait eu quand même plusieurs ratissages qui ont été effectués, non seulement par les enquêteurs, mais les battues citoyennes. Et l'autre hypothèse, c'est qu'on est sur un terrain meuble, escarpé, qu'il y a eu des orages, que le terrain a bougé, et que peut-être le corps est réapparu à ce moment-là. Non, moi, je crois que ce qu'il faut dire à ce stade, donc... nous avons des forces de gendarmerie très importantes sur le terrain, ça a été dit, une centaine de gendarmes, avec des moyens d'investigation hors normes, avec des équipes de l'IRCGN, oui, une équipe d'élite de la police scientifique de la gendarmerie, hein, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, deux juges d'instruction qui travaillent quasiment à plein temps sur ce dossier. Donc il faut espérer véritablement qu'il y ait ce petit coup de chance pour les enquêteurs de trouver autre chose qui permette une autre identification et qui nous permette d'avoir la vérité sur cette affaire.
L'aura-t-on un jour, d'ailleurs? C'est pas parce qu'on a retrouvé ce crâne qu'on aura la vérité.
Très circonscrite maintenant. Mmh. Le haut du Vernet, c'est environ, le corps était là...
Donc, si le corps, encore une fois,
s'il y a une mise en situation, c'est que les enquêteurs cherchent à vérifier déjà des points qui ne sont peut-être pas aussi crédibles que cela de la part de certains témoins. Donc, ils essaient de trouver les incohérences. Donc, ils ont énormément de données de masse numérique, téléphonique, Internet et autres. Donc, laissons le temps judiciaire et de l'enquête qui n'est pas le temps médiatique pour avancer sur cette enquête.
On se posera des questions peut-être un petit peu plus techniques encore avec Rémi Costagliola, dit Polidori. Vous êtes médecin légiste. Merci beaucoup d'être avec nous en vidéo, en direct. On revient vers vous juste après le journal L'Essentiel en une minute avec Maureen Vidal.
Les départements de Saône-et-Loire, Côte d'Or et de Lyon sont passés en vigilance rouge pour forte crue. Après la montée des eaux, ce week-end d'impressionnantes inondations ont ravagé ces départements, notamment en Indre-et-Loire, où les dégâts sont considérables malgré la décrue amorcée plus tôt dans la journée. Deux jours après la découverte d'ossements du petit Émile, des dizaines d'enquêteurs passent au crible les environs du Haut-Vernay. Un important dispositif a été déployé pour tenter d'éclaircir les zones d'ombre autour de la mort du petit garçon. Chiens spécialisés, drones, instituts de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ont été mobilisés. Le bourg de 25 habitants est fermé au moins pour la semaine sur arrêté municipal. Les recherches reprendront dès demain. Et puis cette annonce des services de sécurité russes, les personnes arrêtées dimanche au Daghestan sont liées à l'attentat de Moscou qui a fait au moins 144 morts. Ces trois individus prévoyaient de commettre une série de crimes terroristes selon les autorités russes.
Maureen, rendez-vous dans 30 minutes. Avant de continuer la conversation autour de cette disparition et de ce rebondissement donc hier dans l'enquête autour du petit Émile, écoutez ce gendarme de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, sur place aujourd'hui. Donc. Ah, est-ce qu'on l'a? On y va? Alors, on va peut-être parler avec notre ami, notre invité, Rémi Costagliola d'Ippolidori, en attendant de retrouver donc l'extrait de ce gendarme. Ah ben, nous l'avons. Pardonnez-moi, monsieur, on écoute le gendarme et je reviens vers vous tout de suite.
Pour nous, l'objectif, c'est de fixer la scène pour la maintenir dans les meilleures conditions et pouvoir garantir le replacement des indices. Ces drones permettent dans un premier temps de cartographier de manière très fine l'ensemble de la scène par des prises de clichés. Et on va travailler avec ce qu'on appelle de la photogrammétrie pour ensuite reconstituer en 3D et en 2D, donc avec des cartes et des vues donc en 3 dimensions, l'ensemble de la scène. On restera le temps nécessaire pour fixer la scène et jusqu'à ce qu'on ait relevé tous les indices.
Bonsoir donc et encore merci Rémi Costagliola d'Ippolidori d'être avec nous. Vous êtes médecin légiste. Une première question évidemment à l'aune de cette découverte hier. C'est capital également de trouver, c'est difficile à dire mais on doit être un petit peu cru, ce qu'il manque du corps de ce petit garçon, peut-être encore des pièces de vêtements qu'il portait le jour de sa disparition pour tenter d'éclaircir ce qui doit l'être.
Bonsoir. En effet, là, ce qui sera déterminant, c'est de trouver l'intégralité du corps. Pour l'instant, j'écoute les informations, on a découvert un crâne. On va peut-être, les techniciens, pouvoir dire certaines choses, mais la situation paraît complexe.
La rapidité avec laquelle ce crâne a été identifié. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'imagerie scanner, les progrès de la technique, les enquêteurs, les équipes vont vite pour savoir ce que peuvent révéler des ossements. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans la recherche scientifique.
Alors là, en effet, les enquêteurs ont déjà répondu à deux questions majeures quand on trouve des os dans la nature. S'agissait-il d'os humains? Et peut-on déterminer une identité? Ils ont répondu très vite à ces questions. Après, il y a d'autres examens qui vont être réalisés, bien sûr des examens radiographiques, l'imagerie qui peut apporter un certain nombre d'éléments, et puis l'autopsie à proprement parler du crâne, voire d'autres fragments de corps qui pourraient être retrouvés.
Là encore, je vais être peut-être un peu cru pour nos téléspectateurs, mais j'ai la sensation que pour une meilleure compréhension, c'est important d'aborder ces sujets. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur, lorsqu'on a ce crâne, lorsqu'on le découvre? Quelles sont les expertises qui sont menées? En quoi ça consiste?
Alors, comme dans toute enquête et toute enquête criminelle, on va réaliser une autopsie, hein, quel que soit l'état du corps. Là, c'est parcellaire, mais... on cherchera par cette autopsie à répondre à trois questions que se posent les magistrats, les enquêteurs: quand, comment et pourquoi. Quand c'est la datation du décès, le délai post-mortem, hein, là se pose une question majeure: depuis quand ces ossements résident sur les lieux de la découverte? Et les autres questions, c'est la cause et les circonstances du décès. Donc l'autopsie pourra peut-être permettre en partie d'apporter des éléments de réponse.
Et c'est pour ça qu'il est crucial de retrouver tout ce qui peut encore l'être. On sait qu'il y a deux hypothèses qui sont évoquées: l'hypothèse criminelle, l'hypothèse d'un accident, d'une chute de ce petit garçon. Elle ne semble pas la plus probable, cette thèse accidentelle, et là encore je m'en remets à votre expertise. J'ai cru lire ici ou là qu'une chute d'un petit garçon qui entraîne un décès, c'est assez rare, parce qu'on parle d'un enfant de 2 ans et demi qui aurait marché très longtemps sur un terrain accidenté, et que le squelette d'un enfant n'est pas celui d'un adulte. Peut-être peut-être moins de risque pour un enfant de faire une chute mortelle que pour un adulte. Est-ce que vous confirmez ces affirmations?
Là, c'est difficile en médecine légale, par définition, comme dans le cadre d'une enquête judiciaire criminelle, on élimine aucune hypothèse. Et là, il faut s'en remettre aux constatations, hein, qu'on peut être amené à faire lors d'une autopsie, notamment sur le crâne. Là, l'élément majeur, c'est que l'os est imputrescible, donc je pense que les techniciens, les experts qui vont travailler sur le crâne, pourront être à même de déterminer s'il y a une fracture ou pas. Et après, ce dont vous parlez, ce sont les circonstances de production d'une blessure. Ça, c'est encore une autre étape et il faut confronter ça à d'autres éléments. Mais par définition, en médecine légale, il n'y a pas de limite dans les situations auxquelles on peut être confronté. Donc, c'est difficile, là, à ce stade, bien sûr, de privilégier quelconque hypothèse.
Merci beaucoup, monsieur. Georges Fenech, je voudrais réagir pendant qu'on entendait notre médecin légiste.
Dire, vous dites, Julien, c'est soit un crime, soit un accident.
Il semblerait que ce soit les deux hypothèses qui sont...
Moi, j'en vois peut-être, si vous me permettez, une troisième.
À le savoir.
Qui pourrait être un accident dissimulé. Des coups qui auraient entraîné la mort sans intention de la donner. Des coups, vous voyez ce que je veux dire ? Ou bien un accident avec un véhicule et qu'on dissimule le corps. À ce stade, on ne peut rien exclure. On ne peut strictement... Ce dont je suis vraiment... Je mets beaucoup d'espoir, c'est que je pense qu'avec les techniques aujourd'hui d'examen dont dispose de l'IRCGN, ils vont faire parler ce crâne. On saura s'il est...
Le problème, c'est que ce crâne, a priori, a déjà parlé et que sans les autres parties du squelette de ce pauvre garçon, et c'est terrible de parler de squelette parce qu'on oublie qu'on est en train de parler d'un gamin de 2 ans et demi, que ses parents sont en train de pleurer.
On a simplement fait une recherche ADN pour l'identifier. Mm-hmm. Maintenant, il va y avoir des analyses très très fines,
d'accord,
avec des balayages électroniques, des microscopes, des radiographies. En 3D, on a des outils formidables aujourd'hui pour déceler s'il y a la moindre trace de violence sur le crâne, par exemple. Ce qui, à ce moment-là, nous ramènerait à l'hypothèse criminelle. Donc, il faut rester confiant. Il faut être patient, parce que ça prendra du temps, sans doute plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais il faut être confiant.
Je voudrais qu'on entende Alain Bauer avant de vous entendre, Christian Proutot. Alain Bauer, le criminologue qui posait les grandes questions autour de cette affaire aujourd'hui sur notre plateau.
La question qui se pose aujourd'hui, c'est où... Quand, comment ? Où on sait où on a retrouvé un crâne, mais pas le reste du corps ? Est-ce le lieu de commission du décès, ou du délit, ou du meurtre, ou de l'assassinat ? Nul n'en sait rien. Deux, quand ? Quand est un sujet complexe, car est-ce que ça a eu lieu depuis très longtemps et les mouvements du terrain, la pluie, des animaux ont retrouvé et transporté, mais... Depuis 9 mois, en fait, l'issue était connue, mais elle vient juste d'être révélée. Et puis, troisièmement, comment ? Est-ce un accident ? Est-ce un accident déguisé ? Est-ce un meurtre ? Est-ce un assassinat ?
Ce sont bien sûr des questions cruciales, et malgré la récente découverte, elles resteront, peut-être à jamais sans réponse, Christian.
J'espère que non, parce que on a des outils modernes que l'on n'avait pas dans d'autres affaires, où effectivement, tout d'un coup, se trouvant face à une situation comme celle-là, on n'avait pas les moyens techniques qui pouvaient permettre de faire les recherches, qui permettaient aux enquêteurs d'en savoir un peu plus. Je voudrais juste citer un exemple tout bête. La vraie question, c'est ce crâne. Il est là depuis que le petit a disparu ou pas ?
C'est la première question qu'on s'est posée, et à l'heure où l'on se parle, je pense que personne ne le sait.
Oui, mais justement, que font les gendarmes actuellement ? Pourquoi ils vous parlent de ce relevé qu'ils font topographique ? C'est qu'on va être obligé de reconstruire un cheminement. Or, le Haut-Vernay et le Bas-Vernay, ça fait presque 1 kilomètre, en ligne droite, 1 kilomètre.
Là, il a un à 2 kilomètres.
En tout, oui. Mais c'est, vous descendez... Donc pour un petit enfant, c'est pas illogique qu'il ait pu descendre plutôt que d'essayer de monter. Et en tout état de cause, s'il était monté...
Mais vous voyez un enfant de 2 ans faire une balade de 1 kilomètre tout seul ?
1 kilomètre, c'est pas impossible. C'est juste...
Ça me paraît...
L'habitude de marcher.
Voilà. Ouais. Le seul problème, c'est que l'endroit où il est plus sur cette route dont on parle. Et il est dans un endroit où, quand on fait du jogging, ou quand on fait des balades, on se balade sur des petits sentiers qui remontent. Donc moi, je n'ai pas l'endroit exact, mais je suis à peu près sûr que géographiquement, c'est en pente. Donc l'enfant, soit il avait pris la route, ce qui avait été imaginé à un moment sur un enlèvement potentiel, puisque les Saint-Hubert, les chiens de recherche, de plutôt pisteurs, s'étaient arrêtés au lavoir, c'est-à-dire encore au Haut-Vernay. Mais après, il aurait pu continuer à descendre sans que personne le voie, ce qui paraît, par exemple, impossible selon ce que j'ai pu entendre, puisqu'il y avait 2 maisons où les gens passent leur temps un petit peu, comme ils n'ont pas grand-chose à faire, à voir qui passe ou qui ne passe pas. Ce qui fait que l'endroit où se trouve le corps, c'est un endroit... Est-ce que le corps a été là ou pas? C'est déterminant. Et c'est là où je reviens à la police scientifique. C'est que la Terre, pardonnez-moi, qui a forcément, mais au niveau de l'infinitésimal, sur ce crâne, elle sera du coin ou elle ne sera pas du coin. C'est ça. Oui. Si elle est du coin, les analyses le montreront. Si c'est
alors, j'ai lu quelque chose qui me paraît assez improbable tout à l'heure, juste avant de monter en plateau. J'ai lu ça dans un média, je ne saurais plus vous dire lequel, mais que la promeneuse aurait elle-même amené le crâne à la gendarmerie.
J'ai lu ça
donc
aussi.
Là, vous entachez évidemment la preuve et les différentes analyses que vous pouvez en faire.
Non, mais je pense qu'ils ont retrouvé l'endroit, bien évidemment. Mais
elle a amené elle-même le crâne à la gendarmerie.
Oui.
Il semblerait
que le réseau passait pas bien.
Je serais resté sur place, j'aurais appelé à la rigueur. Enfin,
c'est pas une scène de...
Oui, elle touche pas, quoi.
Elle sait pas ce que c'est. Oui. À l'instant T, elle sait pas ce que c'est.
Si elle le ramène à la gendarmerie, c'est qu'elle a peut-être une idée, quand même, la dame.
Je vous rappelle que, malheureusement, on parle de quelque chose qui est à peine plus gros que le gobelet. Donc, si vous n'êtes pas expert, vous n'êtes pas totalement certain de savoir ce que vous tenez entre les mains.
Non, je pense qu'elle ne s'est pas trompée, qu'elle savait que c'était un crâne. Mais le problème, je crois, c'est qu'elle n'a pas pu joindre ou qu'elle ne pouvait pas joindre parce que les réseaux en montagne...
Peut-être aussi, oui.
N'est-ce pas ? Ouais. Et donc, elle a voulu amener... Bon. Enfin, on ne va pas charger cette dame, parce que je ne vois pas l'intérêt qu'il y aurait d'autre que de pouvoir informer les forces de gendarmerie qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Donc, dans sa démarche, c'est surprenant, puisqu'on voit dans tous les films qu'on n'arrête pas de nous montrer des périmètres de sécurité.
Oui, des scènes gelées, comme on dit.
Voilà. On a retrouvé l'emplacement. Elle a dit où elle l'avait trouvé. Donc on a su dans quelle position était le crâne. Oui. Effectivement, puisqu'on est malgré tout obligé de rentrer dans des détails morbides, ce crâne a pu rouler. Mais ça veut dire qu'en plus, il était encore plus en amont que là où on l'a trouvé. Et c'est pour ça que j'insiste.
L'énigme est peut-être encore plus grande après la découverte de ce crâne qu'avant.
Oui, ça pose encore plus de questions. Je ne suis pas totalement sûr. Moi, je pense qu'au contraire, pour le coup, les enquêteurs qui travaillent sur l'affaire depuis, bien malheureusement, la disparition du petit Émile, ce soir, ils se sont couchés ou ils vont se coucher en ayant fait une petite liste des hypothèses et qu'ils sont peut-être beaucoup plus proches des certitudes que ce qu'on
le
croit.
Je rappelle que le dernier endroit où l'enfant a été vu, c'est dans la maison de ses grands-parents, un couple dans la tourmente, évidemment, depuis le début de cette affaire. C'est d'ailleurs la grand-mère qui avait signalé la disparition du petit garçon la première. Émotion sur place. Comment le village, d'ailleurs, vit cette situation? Je voudrais que vous regardiez ce sujet préparé par Koh-Lanta Hanzo.
C'est dans l'unique rue de ce hameau de 25 habitants, rattaché au village du Vernet, entre Gap et Digne-les-Bains, qu'Émile avait été aperçu la dernière fois, le 8 juillet. L'annonce de la découverte de ses ossements marque la fin des espoirs pour les habitants de la commune.
J'ai même pas l'espoir qu'ils soient encore vivants, quoi, dans des bonnes conditions, puisque c'était tellement mystérieux qu'un mystère n'a pas de... Toutes les hypothèses pouvaient être imaginées, en tous les cas celle-là pouvait être envisagée. Maintenant, c'est terminé. Donc ce qu'on peut faire, c'est penser à sa mémoire.
L'heure est au deuil pour la centaine d'habitants. C'est tout un village qui souffre de la perte de l'un des siens.
Perdre un petit enfant, c'est difficile. Voilà. Et pour le maire d'une commune, c'est une des choses les plus difficiles qui soient. De mettre la disparition d'un enfant dans la commune. Enfin, les circonstances et la cause, ben, je pense qu'on les saura, parce que je veux encore une fois rendre hommage à la gendarmerie pour le travail qu'ils effectuent.
Le maire appelle les curieux et les promeneurs à respecter la tranquillité de ses habitants.
Je rappelle la communication du très jeune couple. Je crois que les parents sont nés respectivement en 1996 et 98. Ce sont de très très jeunes parents de ce jeune garçon qui ont réagi via leur avocat hier soir. Les restes mortels du petit Émile viennent d'être retrouvés. Cette nouvelle déchirante était redoutée. Pardon. L'heure est au deuil, au recueillement, à la prière. Un court commentaire, Philippe, oui, et Karim Abrik pour conclure.
Mes pensées vont d'abord à eux,
évidemment,
aux parents. Voilà. Là, pour le reste, il faudrait analyser le pouvoir de fascination qu'exerce ce genre d'énigme.
Parce que ça nous renvoie à tous, à nous-mêmes, à nos enfants.
Exactement, exactement. Mais d'abord penser à eux, parce qu'eux peuvent commencer à faire leur deuil. Parce qu'on sait très bien que que de ne pas avoir de nouvelles d'un enfant disparu empêche, retarde, complique beaucoup le deuil.
Et ils ont vu un signe d'ailleurs dans le fait que c'est des gens qui sont très pieux, très religieux. Ils ont vu un signe hier dans le fait que la découverte du crâne a eu lieu le dimanche de Pâques. Ouais. Jour de résurrection du Christ. Karima, un dernier mot là-dessus. C'est vrai que le nom d'Émile sera tragiquement et éternellement maintenant inscrit dans la mémoire collective.
Oui, et puis c'est bouleversant parce que au final, ce qu'on a appris finalement, c'est que le petit enfant est décédé. Donc c'est quand même, même s'il y avait peut-être un espoir qui était extrêmement mince, mais on avait quand même cet espoir peut-être de se dire, bon, est-ce qu'on va le retrouver? Mais à tout le moins, bon, maintenant, il y a une réponse pour les parents. Mais donc oui, on pense évidemment à la famille et il y a tout ce village aussi où tous les gens se connaissent par leur prénom. Toute l'attention médiatique était tournée aussi vers ce petit hameau.
Donc de 25 maintenant, habitants, hein, le hameau.
Oui, c'est ça, voilà.
C'est vraiment...
Donc, et je pense effectivement, ça ramène aussi toutes ces peurs un peu archaïques. Hein, c'est cette peur qu'il arrive quelque chose à nos proches, particulièrement aux enfants. Donc c'est tout ça ensemble. Et maintenant, bon, on l'a dit, je pense que l'enquête, c'est un tournant. On peut espérer, en tout cas moi je l'espère, mais on peut espérer, surtout pour la famille, d'avoir quelques réponses. Je pense que c'est vraiment la prochaine étape.
Un dernier mot là encore sur cette affaire qui restera dans les mémoires avec Alain Bauer ce matin sur CNews et puis on va parler de toute autre chose juste après.
Je crois que l'affaire Émile restera pour longtemps, très longtemps dans les mémoires et j'espère qu'il aura une solution, c'est-à-dire une clarification sur les conditions du décès et si ce n'est pas un décès accidentel, qu'elle aura une solution pénale, car si je suis très compréhensif et que si mon rôle en criminologie n'est pas de juger, je ne suis pas un professeur de morale, c'est aussi de punir, parce qu'il faut punir quand on s'attaque spécifiquement à ceux qui sont les plus faibles et les plus fragiles.
Voilà pour ces derniers rebondissements dans cette affaire dont on reparlera à coup sûr puisqu'elle est très très loin d'être résolue et on espère surtout pour cette famille qu'un jour la vérité éclatera. Tout autre sujet, je le disais, l'Allemagne autorise à partir d'aujourd'hui la consommation et la culture du cannabis. Avec cette nouvelle loi, l'Allemagne se dote d'une des législations les plus libérales d'Europe en la matière, une mesure qui donne des idées. Notamment la mairie de Strasbourg, Strasbourg ville frontière évidemment avec l'Allemagne puisque la maire de la ville veut à son tour tenter une expérimentation locale. Les élus de l'opposition sont vent debout.
L'autorisation de cultiver et consommer du cannabis récréatif en Allemagne doit nourrir une réflexion selon la maire écologiste de Strasbourg. Jeanne Barseguian souhaiterait s'inspirer du modèle allemand dans sa ville, c'est-à-dire autoriser la culture jusqu'à 3 plants pour son propre usage et la consommation de cannabis séché jusqu'à 50 grammes par mois auprès d'associations. Néanmoins, cette décision n'est pas du ressort des communes. La municipalité espère donc trouver un soutien auprès des autorités nationales, mais compte aussi s'appuyer sur le traité d'Aix-la-Chapelle qui autorise des dérogations pour la réalisation de projets transfrontaliers, notamment en matière sanitaire. En tout cas, du côté de l'opposition de Strasbourg, la décision fait grincer des dents. Dans un communiqué, les élus de l'Union de la droite et du centre réagissent.
Un des rares projets transfrontaliers proposés par la maire de Strasbourg est l'autorisation de la culture du cannabis. Cela est assez symptomatique de la faiblesse et de l'indigence de ces projets franco-allemands et européens.
L'expérimentation souhaitée par la mairie écologiste est selon eux un signal de tolérance, voire de mansuétude face aux dealers de cannabis. Pour rappel, la France est le premier pays consommateur de cannabis d'Europe. Un Français sur deux en a déjà consommé. 5 millions de Français sont des usagers quotidiens.
Je rappelle l'objectif affiché par les autorités allemandes pour cette démarche qui fait parler donc dans toute l'Europe. Plus de sécurité dans la consommation, enrayer le marché noir, une meilleure protection pour les jeunes et remplacer une politique répressive qui a échoué dans un contexte d'augmentation de la consommation. Berlin estime que si l'expérience est concluante, Georges Fenech, elle aura valeur de modèle, pourrait mener à une modification de la législation européenne. Peut-on parler d'un tournant dans l'Union européenne ?
Moi, j'invite nos amis allemands à regarder les expériences déjà menées depuis 2012 aux États-Unis. Il y a 19 États qui ont légalisé effectivement la vente de cannabis. Et qu'est-ce qu'on constate ? Il y a eu des rapports qui ont été faits. Une très forte augmentation des consommateurs, C'est une. Alors c'est paradoxal quand on veut...
Mais des produits plus régulés en termes de THC, hein, la substance psychotrope du cannabis.
Sauf que vous imaginez bien que les toxicomanes assez endurcis au cannabis vont aller sur le marché illégal pour avoir un cannabis avec du THC au moins à 30%, bien plus élevé que le taux autour de 10-15%, de façon à avoir un effet hallucinogène plus important. C'est ça l'addiction, hein, c'est de chercher de plus en plus à avoir... un effet des produits.
Mais là, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire qu'on est déjà passé à l'étape suivante, là, puisque l'Allemagne a commencé. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir une harmonisation européenne? Est-ce que d'une certaine façon, l'Allemagne, aujourd'hui, nous pousse à le faire?
Il y a trois pays seulement en Europe. Il y a Malte, Luxembourg et maintenant l'Allemagne.
Mais sans faire injure à Malte et au Luxembourg, l'Allemagne, c'est quand même une autre locomotive en Europe que Malte et le Luxembourg.
Oui, nous sommes d'accord. Donc, mais... d'abord, quand vous regardez d'un peu plus près la législation telle qu'elle est adoptée, c'est une usine à gaz. Hein, personne n'y comprend rien. Il faut avoir ses 20 grammes, 50 grammes. Il faut passer par une association cannabis
sociale.
Je pense
que les consommateurs gagnent beaucoup.
Non, je veux dire, l'enquêteur sur le terrain, je lui souhaite bien du plaisir pour pouvoir qualifier si c'est un usage légal ou illégal, en dehors de ces quantités. Et encore une fois, il faut rappeler, nous ne sommes pas médecins, mais nous le savons, le cannabis a des effets... dévastateur au niveau du cerveau, au développement neurologique, et notamment pour les jeunes qui sont en développement neurologique. Donc, au moment où on essaie de dissuader l'usage du tabac, on va promouvoir un produit cannabis stupéfiant, encore plus redoutable que la cigarette. Quoi. Voilà.
Si je vous dis les uns et les autres, Christian Proutot également, bien sûr, peut-être en premier d'ailleurs, que des policiers, des anciens policiers, militent pour la légalisation du cannabis, en tout cas pour la fin de sa prohibition.
Je dirais que je trouve ça choquant.
Eh ben, je vais vous présenter Bénédicte Desforges.
Oui,
bonjour écoutez. Madame, vous êtes porte-parole du collectif Police contre la prohibition pour une réforme de la législation donc sur les stupéfiants. Alors, cette position de la part de personnes qui ont été forces de l'ordre ou qui le sont encore, elle peut nous étonner. Pourquoi cette position? Pourquoi êtes-vous contre la prohibition du cannabis? Donc, si je conclue assez aisément, pour sa légalisation sur le modèle, pourquoi pas, allemand?
Écoutez, on est non seulement pour la légalisation du cannabis, on est aussi pour la dépénalisation de l'usage... de tous les stupéfiants. Alors, ça peut paraître complètement contre-intuitif, mais la dépénalisation de l'usage de tous les stupéfiants, c'est ce qui se fait au Portugal depuis 2001. Ça fonctionne très bien. Tous les indicateurs, que ce soit l'accès aux soins, les taux de consommation, le nombre d'overdoses par million d'habitants sont les plus faibles d'Europe. Quant à la légalisation du cannabis, si le cannabis nous intéresse entre les autres drogues, c'est parce que c'est la drogue la plus consommée. C'est un produit de consommation courante avec 5 millions de consommateurs, je pense qu'on peut dire ça.
Mais là, pardon madame, hein, je me permets de vous couper, mais l'argument principal c'est quoi? C'est la politique de répression à la française, c'est un échec, donc la solution c'est la légalisation. Quel est l'argument principal de cette volonté de faire du cannabis un usage légal?
Alors l'argument pour nous, policiers, ex-policiers et gendarmes, c'est que la chasse aux consommateurs, qu'on appelle la chasse aux chiteux, entre nous, hein, notre petit lexique policier, est un, enfin, prend un nombre d'heures et d'énergie policière absolument hallucinante pour un résultat néant. C'est-à-dire que la répression de l'usage n'a aucune incidence sur les taux de consommation, n'a aucune incidence sur le trafic et bouffe un nombre d'heures phénoménal de la police. Oui. Alors, c'est ce qui se passe plus au Portugal. Les policiers ne chassent plus les consommateurs. En fait, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils leur remettent une convocation pour se rendre devant une commission qui va déterminer s'ils ont un problème de désocialisation ou un problème d'addiction. Et à côté de ça, la police s'occupe de quoi? Du trafic et de la vraie criminalité. Ce qui nous intéresse au premier plan. Alors, on entend souvent parler de renoncement politique et moral si on souhaite la légalisation ou la dépénalisation.
Rajoutez un mot. Hein.
Le renoncement politique et moral, c'est de laisser la situation en l'état. Je veux dire, où est-ce que ce serait immoral et un renoncement de se dire que l'État peut récupérer un marché qui, pour le moment, est confié à des réseaux criminels, récupérer le marché et les revenus, bien entendu, parce que on parle quand même de 3 milliards d'euros. Où est-ce que ce serait un renoncement moral? Alors, c'est évident qu'on peut parler, on peut dire, sans se tromper, que la légalisation va donner une acceptabilité sociale aux produits cannabis, mais elle existe déjà. Elle existe déjà, cette acceptabilité sociale.
Bénédicte Desforges, je me permets de vous couper pour que le plateau réagisse et vous restez avec nous si vous le voulez bien. Alors, Georges voulait réagir, oui. Tout le monde va dire son...
Non, mais juste un mot, parce que vous le savez, pendant 10 ans, j'ai été juge d'instruction.
Bien sûr.
Spécialisé en matière de lutte contre les stupéfiants. Je peux vous assurer...
Ce que vous entendez, ça vous choque?
Oui, surtout de la part d'un ancien policier ou gendarme. C'est une attitude munichoise, ça, hein, c'est abandonner nos jeunes. Hein. Je dis ce que je pense.
C'est pas l'argument qu'elle a donné. Hein.
C'est pas la société que je veux voir, moi. Hein. Une société où on vend dans les bureaux de tabac des produits stupéfiants.
Munichoise.
Simplement, je voulais dire un mot, Philippe, simplement un mot. Je ne crois pas avoir vu un seul toxicomane à la cocaïne ou à l'héroïne qui n'ait pas commencé par le cannabis. Je ne dis pas que tous les fumeurs de hachiche finissent à la coque. Il y a l'héroïne, mais il passe par là, voyez-vous. Donc, ayez ça aussi à l'esprit.
Bon, je pense l'addiction, qu'on l'a tous à l'esprit, hein.
L'addiction conduit à l'addiction de plus en plus forte.
Mais l'Allemagne, ce que fait l'Allemagne et ce que ferait la France dans une éventuelle légalisation, c'est pas d'approuver l'usage du cannabis, c'est pas de dire aux Français, allez-y, planez, faites-vous plaisir. C'est juste se rendre compte que la seule solution pour mettre fin aux inconvénients de la prohibition, c'est la légalisation. Mais il ne s'agit pas de dire, allez-y, c'est super. C'est-à-dire que si vous récupérez de l'argent de la légalisation, vous pouvez aussi la réinvestir dans la prévention, dans des messages, dans une façon de dire que comme le fait d'avoir de l'alcool légal, vous envoyez des messages en disant, n'en consommez pas trop, c'est dangereux pour votre santé, c'est dangereux pour votre foie, pour votre corps.
Sauf que en matière d'alcool, il y a une réversibilité lorsque l'on consomme de l'alcool et lorsque l'on se sèvre. Non, mais évidemment, quand on a flingué son foie, c'est mort. Mais si
bien avant, souvent. Hein.
Bon, en tout cas,
l'alcoolisme, ça existe.
C'est prouvé. Maladie, non, mais bien sûr. En tout cas, ce qui est prouvé, c'est que lorsqu'on consomme du cannabis jusqu'à 18-20 ans, eh bien, on flingue son cerveau et c'est bien définitif. Sûr. C'est-à-dire que celui qui a consommé du cannabis en excès au collège, au lycée, son cerveau est flingué et sa capacité à s'insérer dans la société est très diminuée, voire nulle. À l'inverse, celui qui a bu un petit peu trop de bière, collégien, même lycéen, eh ben à un moment, il va arrêter, il va trouver un boulot, il va fonder une famille et il va s'insérer dans la société. C'est écrit. Et juste un mot sur le coût. On a parlé de chiffres. Le soin des victimes de la drogue, c'est 8 milliards d'euros qui pèsent sur le budget de la sécurité sociale. Donc nous tous, collectivement, nous finançons avec nos impôts et nos cotisations sociales 8 milliards d'euros qui ne suffisent évidemment pas à soigner les drogués et à accompagner leurs proches par ailleurs.
Bénédicte Desforges qui opine négativement du chef, me dit-on en régie, je viens vous voir dans un instant. Il est 23h30 tout pile, c'est l'heure d'un retour en une minute sur l'actualité. Maureen Vidal.
Les départements de Saône-et-Loire, de Côte d'Or et de Lyon sont passés en vigilance rouge pour forte crue après la montée des eaux ce week-end. D'impressionnantes inondations ont ravagé ces départements, notamment en Indre-et-Loire, où les dégâts sont considérables malgré la décrue amorcée plus tôt dans la journée. 2 jours après la découverte d'ossements du petit Émile, des dizaines d'enquêteurs passent au crible les environs du Auvernais. Un important dispositif a été déployé pour tenter d'éclaircir les zones d'ombre autour de la mort du petit garçon. Chiens spécialisés, drones, instituts de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ont été mobilisés. Le bourg de 25 habitants est fermé au moins pour la semaine sur arrêté municipal. Les recherches reprendront dès demain. Enfin, nous sommes le 1er avril et ce début de mois s'accompagne de quelques changements. La fin notamment de la vignette d'assurance sur vos pare-brises et de la carte verte qui va avec. La revalorisation également de 4,6% des prestations sociales ou encore le doublement des franchises médicales. Enfin, avril, c'est aussi la fin de la trêve hivernale.
Bénédicte Desforges, merci Maureen. Bénédicte Desforges, qu'est-ce qui vous a fait tiquer dans ce que vous avez entendu il y a un instant?
Bah, écoutez, Le phénomène de l'escalade d'une drogue à l'autre, en fait, il n'existe pas. C'est quelque chose qui a été étudié de près, vous pensez bien, parce que ça pourrait effectivement remettre en question beaucoup de choses, mais ça n'existe pas. Je veux dire, c'est aussi simple que si je vous disais tous les buveurs de whisky ont commencé à boire de l'eau. Ça n'a pas de sens. Il y a 5 minutes.
Ça n'a rien à voir, mais.
Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir du tout, mais bon. L'eau n'est pas une drogue.
Quand vous comparez l'alcool avec les drogues, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous servir le coût social des drogues, parce que l'Observatoire français des drogues et toxicomanie considère l'alcool et le tabac comme des drogues. Et le coût social des drogues illicites, c'est epsilon par rapport au tabac et à l'alcool. Ouais, donc, il ne faut pas proposer des produits comme ça. D'autre part...
Le plateau va vous répondre, madame. J'ai juste une petite question, une petite parenthèse en une seconde, si vous le voulez bien, pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Vous êtes encore policière aujourd'hui ou vous êtes ex-policière?
Non, j'ai démissionné, sinon je serais soumise à l'obligation de réserve et je ne serais pas là.
D'accord. Et vous avez déjà confronté cette façon de voir les choses avec vos collègues ou anciens collègues?
Bien sûr.
Et quel est le son de cloche plus
le son de cloche dominant de mes collègues? Déjà, ils se plaignent énormément et à raison de la politique du chiffre et de quoi fait et la de quoi est faite la politique du chiffre.
Je dis n'importe
aux consommateurs de drogue. Ça permet de gonfler à l'hélium les bilans statistiques du ministre de l'Intérieur. Je vous apprends pas, ou peut-être que si pour certains, la délinquance 2023, on observe quoi? On observe une hausse du délit d'usage de stupéfiants et une baisse du trafic. On cherche quand même l'inverse. On cherche quand même l'inverse, vous voyez? Bon. Donc, et c'est comme, bon, monsieur avançait qu'il a été magistrat et tout. Oui. Moi, j'ai.
Il n'a pas eu tout, hein. C'est Georges Fenech qui a été magistrat instructeur pendant des années.
C'est pas.
Moi, j'ai été flic pendant des années. J'obéis pas à des dogmes où je ne suis pas dans une posture idéologique. J'essaye de réfléchir à la meilleure façon de gérer cette situation sur le front des trafics.
Bénédicte Desforges, on fait un peu tourner la parole en plateau, si vous le voulez bien, vous êtes toujours avec nous. Christian Proutot, il n'y a que deux solutions, ou vous me dites si vous en connaissez une autre. Soit la légalisation que prône madame, soit vous mettez d'énormes moyens, sinon rien ne peut fonctionner. Mais quand je dis d'énormes moyens, ce n'est pas des opérations place nette qui durent 3 jours et puis les réseaux qui se reforment derrière. Hein. Non, c'est vraiment.
Mais justement, par rapport à une politique qui a été pendant des années une politique où on a laissé faire, où justement la police ou la gendarmerie, c'était plus le problème le plus prégnant, on a vu le résultat. Et c'est pour ça que maintenant on met du temps, parce qu'on a perdu toute l'expertise qu'on avait sur le terrain.
Il vaut pas mieux financer l'État que financer les mafias quand on achète du cannabis.
Ça, c'est encore plus hypocrite que le reste. Hein.
Alors,
pourquoi c'est hypocrite?
Parce que 20% des accidents mortels sont dus à l'usage de stupéfiants.
Bien sûr.
Oui, mais enfin, c'est légal ou pas légal?
C'est pas un rêve.
Ça, c'est pas légal ou pas légal, ce taux-là, il sera toujours le même.
Oui, sauf que dans tous les pays où on a légalisé, on a un problème qui est inverse de celui que l'on pensait. Parce que, comme le soulignait Georges tout à l'heure, et que vous l'avez souligné également, Julien, le problème, c'est après le taux de THC.
Oui.
Et tout consommateur cherche à avoir un taux de THC plus élevé après. Donc, on va être obligé de légaliser avec un taux à 7 ou 8%, et puis on va vendre au marché noir, du 15, du 20, du 30.
Ça, c'est vrai que c'est un problème. Moi, je peux vous parler...
Du Canada.
Oui, c'est ça.
Sans blague.
Ça
a été... J'allais en parler, mais je pensais que j'étais pas bien placé.
Non, mais je pense qu'il faut regarder, parce que selon les pays, la situation est très différente. On parle souvent des Pays-Bas, la Belgique, c'est catastrophique. Attention, aux Pays-Bas, c'est la dépénalisation qu'on tolère. Et ça, c'est la pire. Je pense que c'est la pire option parce que vous n'avez aucun avantage. Vous ne retirez aucune recette de cette vente de la drogue, mais vous avez tous les inconvénients. Donc, je ne pense pas que c'est la voie à suivre et on voit la catastrophe annoncée. Au Canada, ça varie d'une province à une autre. Je peux vous parler particulièrement du Québec, mais si on regarde le marché comme tel, sur le trafic comme tel, sur les trafiquants, je vous dirais, là, je regardais des chiffres, on disait que pour la première moitié de 2023, plus de 70% de la valeur totale de cannabis consommé
provenait d'une source légale. Donc, ça a quand même fait diminuer le marché noir de la drogue, mais ça ne l'a pas éliminé complètement. Oui, il y a des recettes, que c'est le gouvernement qui récolte ces recettes et vont dans la prévention. Ça fait partie même de la loi de dire on va investir pour lutter contre les dépendances et tout ça, même si ça peut paraître antinomique. Et cela étant dit, c'est vrai que le marché noir, et ça, c'est la difficulté, ils vont essayer d'aller sur des produits plus forts, d'essayer de le vendre moins cher pour essayer quand même...
Ils vont pas rester les bras croisés.
Hein, exactement. Sauf que, sauf qu'il y a quand même la question de l'insécurité dans des quartiers. Et donc, quand on voit que... Quand on laisse faire... Et moi, j'ai aucun problème. Moi, je suis pas du tout pour les trucs de drogue. Hein. C'est pas du tout mon... C'est pas du tout personnellement. Je n'aime pas ça et je suis d'accord avec vous sur le cerveau. C'est vraiment pour bousiller complètement le cerveau, particulièrement des jeunes. Et l'effet néfaste de la légalisation, c'est que c'est vrai qu'il y a une augmentation, on dit, des visites aux services d'urgence pour les empoisonnements, des choses comme ça chez les jeunes. Donc ça, c'est le pendant négatif. Mais si la France, je peux juste terminer, si la France, moi, j'ai pas de problème que la France décide de ne pas légaliser, mais ça ne règle pas le problème pour les jeunes. C'est-à-dire que si vous mettez pas le paquet pour la prévention, pour aller lutter contre les trafics, eh bien, vous laissez prospérer.
Mais il faut rentrer de l'argent. On a plus d'argent, Georges.
De plus en plus puissant.
Il n'y a qu'une question qui compte.
Et c'est ça qui est dramatique.
Il n'y a qu'une question qui compte. C'est ce que je me dis humblement. Légaliser permettrait-il ou pas de contrôler une filière et de mettre fin à l'insécurité?
Non.
Je veux bien dire un mot. Non d'un côté, oui de l'autre.
C'est bien, votre plateau est bien équilibré.
Et Philippe Guibert, et puis je donnerai un dernier mot à Bénédicte Desforges qui veut également réagir.
Bon, il y a un moment où il faudra bien qu'on ouvre cette discussion. On ne veut pas l'ouvrir.
Ça fait 30 ans qu'on l'a ouverte.
Georges, on n'en a jamais débattu sérieusement. Donc il y a des gens comme toi, mais c'est parfaitement ton droit.
La loi 70.
Attends, je termine. Enfin, je commence.
Mais terminez quand même.
Il y a les gens qui sont radicalement contre pour des postures à la fois morales et idéologiques. Et puis il y a les autres qui sont dans une position de pragmatisme absolu dont on ne voit pas bien. Il faudra qu'on fasse le bilan. Ça n'a jamais été fait véritablement en France. Il y a un Parlement, ça existe. Il y a des commissions d'enquête parlementaires qui peuvent faire le bilan du Canada, du Luxembourg, de Malte, des États américains, où c'est, pour en faire vraiment le bilan, où qu'on fasse un bilan le plus objectif possible pour savoir quels sont les avantages et les inconvénients, parce qu'en tout état de cause, ce n'est pas une baguette magique, la légalisation.
Il y a toute une littérature là-dessus.
Je retiens quand même de ce que nous a dit Madame un argument que j'ai entendu très souvent aussi de la part des
policiers. C'est qu'avant de boire du whisky, on a bu de l'eau.
Pardon.
C'est qu'avant de boire du whisky, on a bu de l'eau. Non, je taquine madame à distance.
C'est de dire que les policiers, effectivement, passent un temps considérable, non pas dans la répression des trafiquants qui est indispensable, mais dans la répression des consommateurs.
Bon.
Pour des résultats qui ne sont pas formidables, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on en est venu le pays le plus consommateur d'Europe. Et donc, de vouloir à tout prix affecter des policiers pour chercher, pour pister des consommateurs, ce n'est pas un succès. Il faudra quand même en tenir compte un jour dans notre politique publique.
Mais est-ce qu'on peut protéger davantage les jeunes aussi? Moi, je pensais que c'est la question. La prévention, comment se fait-il qu'on n'ait pas davantage là-dedans aussi?
Parce qu'il n'y a pas de transversalité sur ces questions-là, que le ministre de la Santé devrait être au premier rang sur ces questions également. Peut-être avant le ministre de l'Intérieur même.
Vous venez de prononcer deux fois le mot santé. On n'a pas utilisé le mot santé depuis le début de ce débat. Et en fait, c'est ça le sujet. C'est un sujet de santé.
Et la légalisation, c'est peut-être le seul moyen d'objectif d'atteindre des objectifs
c'est
de santé publique.
Santé publique. Il ne vous a pas échappé, je vous donne la parole juste après. C'est que les dépenses de santé, c'est 350 milliards cumulés et qu'on a un petit problème de financement. Donc plus on lâche du lest et plus on précipite la fin et on va aller dans le mur.
Bon.
Et un jour, on va dire à ceux qui fument des cigarettes normales, à ceux qui fument des cigarettes qui font rire, à ceux qui boivent en excès, eh bien c'est votre problème, mais l'hôpital ne vous soignera pas parce que vous avez pris vos responsabilités et on ne pourra pas vous soigner. C'est ce ça qui va arriver.
Mais encore faut-il être sûr que la cause de la maladie est bien à 100% liée. Vous savez, il y a des gens qui ont des cancers des poumons et qui n'ont jamais touché une cigarette de leur vie. Vous savez quelle est la première cause du cancer du poumon?
Le tabassage passif?
Non, la génétique.
Ah. Le ministère de la Santé considère que sa priorité, j'y ai travaillé, c'est pour ça que je me permets de dire ça, c'est d'éviter les décès qu'on qualifie d'évitables. Donc c'est le tabac et l'alcool.
Bon.
Et les drogues n'ont jamais été une priorité du ministère de la Santé, qui considère que ce n'est pas un énorme problème de santé publique.
Bénédicte Desforges, le mot de la fin, en quelques secondes, vraiment, s'il vous plaît, parce qu'on est pris par le temps, je suis navré.
Ok, alors en quelques secondes, vite, vous parlez beaucoup de santé, mais je vous signale quand même qu'il n'y a pas de crise sanitaire liée aux drogues en France, on n'est pas aux États-Unis. Alors certes, c'est une conduite à risque, certes, il y a besoin de prévention et d'information et de conseils de consommation, mais il n'y a pas de crise sanitaire. Par contre, la crise sécuritaire, on y va tout droit. Alors, Monsieur Proutot, vous dites ce que vous n'aimez pas, mais vous ne préconisez pas grand-chose. Alors, vous étiez le patron de du GIGN. Moi, j'étais simple flic sur la voie publique et je pense que j'ai vu plus de dealers et de consommateurs que vous et que j'ai eu une vue plus précise de l'échec de la prohibition et plus concrète et plus pragmatique que vous.
Vous êtes offensive, madame. Je ne sais pas si c'est le meilleur moyen d'avoir une discussion constructive,
c'est
votre façon d'aborder les choses. Christian Proutot, est-ce que vous voulez répondre ?
Non, mais je trouve ça incroyable. Le GIGN participe dans l'arrestation d'Ecofast et tout. Je ne vois pas en quoi le sujet sur la santé de nos enfants a quelque chose à voir avec le fait que dans mon métier, je n'ai pas eu à gérer directement les toxicomanes. Je ne vois pas le propos. Et c'est sûrement pas un argument. Alors choisissez-en un autre. Je suis prêt à échanger avec vous, mais pas comme ça. C'est pas le meilleur moyen d'avoir raison.
C'est sûr.
Mon argument, c'est que je peux me targuer d'avoir une expérience qui m'incite à avoir une réflexion avec mes collègues de mon collectif et d'autres sur comment on peut venir à bout de...
Il y a combien de membres dans ce collectif ?
C'est la question que j'avais posée.
Vous étiez au stup ?
Non.
Vous étiez au stup ? Puisque vous faites le reproche de ne pas avoir été au stup. Vous étiez au stup ?
Les stups, monsieur. Les stups, on leur amène des affaires quand on est sur la voie publique. On est dans les cours, on est dans les cités.
Ils sont combien dans leur collectif ?
On a affaire aux consommateurs, on a affaire aux dealers. Voilà. C'est le boulot du gardien de la paix et du lieutenant de police des quartiers qui étaient criminogènes en banlieue parisienne et dans le 18e arrondissement, pour ne pas le citer.
Combien êtes-vous dans ce collectif, madame ? Comment est-il né ? Depuis combien de temps existe-t-il ? Et quelle est son importance parmi justement les policiers, gendarmes, ex-policiers ou ex-gendarmes ? Qu'est-ce que vous représentez dans l'institution ?
Pardon ?
Quelle est la proportion de ce que vous représentez dans l'institution policière ?
Écoutez, je vais pas vous mentir, on n'occupe pas un positionnement majoritaire. Cela dit, quand on discute avec nos collègues, qu'on explique, parce que nous, on s'est beaucoup documenté sur ce qui se fait ailleurs, sur ce qui marche bien, sur ce qui échoue, ils nous rejoignent très souvent, mais ne serait-ce parce qu'ils en ont marre de la politique du chiffre et qu'ils veulent faire du vrai boulot public. C'est quand même plus valorisant et utile professionnellement de surveiller du trafic, de prendre le temps d'arriver à bout de certains, même des petits réseaux dans les quartiers, que de faire à la chaîne comme de l'abattage de la répression de l'usage de drogue.
C'est bon.
Parce que c'est très facile, c'est très bien pour les plans.
Georges Fenech.
Non, j'ai tout dit.
Bon, si vous avez tout dit, moi aussi.
J'ai tout dit.
Pas tout dit sur le débat.
Ah oui. Comment ?
Il est compliqué, le débat.
Il est compliqué, le débat. Il est très clivant, parce que c'est vrai que...
Très tranché. Parce que je viens de vérifier, le dernier rapport parlementaire, la dernière commission d'enquête date de 2003. Donc d'il y a 20 ans. Donc ça veut dire que
mais la vérité, c'est que ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui va nous pousser à avoir ce débat et à se poser la question de l'harmonisation. Parce que si c'est autorisé pour les touristes, les frontaliers vont faire 30 bornes et ils vont aller se fournir également.
On n'est absolument pas obligé de légaliser
en Allemagne parce que c'est interdit de faire du tourisme. C'est dans la loi. Ça, c'est
pour l'instant.
C'est l'état de nos finances publiques mais au moins ça peut permettre d'avoir un débat un peu serein sur ce sujet. Ce serait pas mal.
C'était pas le cas ce soir en tout cas. Et merci. Merci beaucoup Bénédicte Desforges. On reprendra contact avec vous parce que votre positionnement, surtout vu votre profession, votre ancienne profession en tout cas, il est pas commun et ce sera intéressant, pourquoi pas, de vous appeler de nouveau et d'avoir un débat un peu plus long et pourquoi pas aussi sur le plateau ici même de Soir Info. Merci, je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif Police contre la prohibition. Il va déjà être l'heure de rendre l'antenne pour cette première de la semaine. Georges, vous avez été fabuleux.
Non,
si, vous avez été très bon. Moi, tout comme M. Giraud, M. Proutot.
Merci pour lui. passe auprès des familles, c'est surtout ça.
Mais le problème, c'est que quand on voit les chiffres et l'importance de la consommation, notamment quotidienne, de cannabis dans ce pays, on peut en douter. Merci Philippe.
Ouais, et dans Karima, et dans Thomas, politique aussi. Hein.
Aussi, et on n'a pas de soucis de prévention.
Jade Roger, Coralie Deleplace, Martin Mazur ont préparé cette émission. Je les en remercie. C'est Simon Guilin qui vous attend pour l'édition de la nuit dans quelques instants. Je vous dis rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Soir Info. À demain et bonne nuit.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.